Bonjour et bienvenue à cette émission de la série « Croire d'hier à demain » réalisée dans le cadre du 50e anniversaire de l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal. C'est Francine Robert au microphone en remplacement temporaire de Christine Cossette. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui un collègue de l'Institut de pastoral, Bruno Demers, qui est dominicain, professeur de théologie fondamentale et de théologie pastorale. Bruno tient aujourd'hui une promesse qu'il nous a faite dès la première émission de la série en janvier, revenir nous parler des défis posés aujourd'hui à la foi par de nouvelles réalités de notre paysage religieux, comme la présence de l'athéisme, l'indifférence religieuse, ainsi que la redécouverte et l'intérêt pour d'autres grandes traditions religieuses. En janvier, Bruno avait soulevé de belles questions, des questions complexes, stimulantes, et il nous fait le plaisir de les approfondir avec nous aujourd'hui. Bonjour Bruno.
Bonjour Francine.
Et merci de nous revenir sur ce thème riche et peut-être difficile des défis que rencontre aujourd'hui la foi, ou peut-être pourrait-on même dire les difficultés que rencontre aujourd'hui la décision même de croire. Dans l'introduction, j'ai mentionné l'athéisme, l'indifférence religieuse, les autres grandes religions comme étant des défis sérieux et actuels. Bruno, ces réalités qui sont nouvelles, beaucoup de gens les considèrent comme des obstacles à la foi. Mais si j'ai bien compris, vous préférez plutôt les voir comme des défis positifs, ou en tout cas des défis qui pourraient contribuer à faire mûrir la foi. C'est une orientation intéressante, il me semble.
En effet, Francine, comme la plupart des gens, moi aussi, quand je rencontrais des athées, des indifférents, même des gens de d'autres traditions religieuses, ça venait un peu me heurter, hein? On n'est pas spontanément, je dirais, à l'aise mm-hmm. avec ces situations-là. Mais c'est notre situation actuelle, hein? La foi n'est plus portée par l'air du temps. On est obligé, évidemment, de se situer. Si dans un premier temps, c'est un obstacle, c'est quelque chose d'insécurisant, quand on réussit à vaincre cette première réaction et à se mettre à l'écoute de ce qui se dit vraiment dans ces réalités qui se présentent à nous, eh bien, on a là l'occasion, dans le fond, d'un véritable approfondissement de la foi, l'occasion aussi d'un renouvellement de notre rapport à Dieu, l'occasion aussi de purifier l'image que nous nous faisons de Dieu. Mm-hmm. Et de ce point de vue-là, si nous avons le courage de relever ces défis-là, je crois que ça peut nous aider, dans le fond, à progresser, en effet, sur le chemin de la foi et de nous rendre bien compte qu'il y a moyen de croire aujourd'hui dans notre monde et que ce n'est pas quelque chose de niaiseux, pourrait-on dire.
Oui, oui, qu'on n'est pas l'habitant d'une autre planète.
Quoi. Voilà, voilà.
Mais donc, ce sont presque, à vous entendre, je dirais, ce sont presque des défis de croissance.
Ça pourrait être vu comme ça.
Bon, ce sont des grands défis, on n'a pas énormément de temps, mais prenons-les l'un après l'autre. Pourrions-nous commencer avec l'athéisme, Bruno?
Le défi de l'athéisme.
Le défi de l'athéisme, oui.
Ah oui, qui est une réalité très présente autour de nous, vous le savez comme moi.
Oui, et qui est relativement récente, je dirais, au Québec, en tout cas en plus grand nombre.
En plus grand nombre, oui. C'est certain. Ah oui, ça c'est vrai. Ça fait partie, je dirais, du déblocage qui s'est produit autour de ce que nous appelons ici la Révolution tranquille.
Oui.
Et juste pour vous rappeler que c'est vraiment d'actualité, je crois que c'est l'année dernière, peut-être, qu'on a vu apparaître un recueil d'articles qui s'intitulait « Heureux sans Dieu ». 16 Québécois qui vraiment osaient donc présenter leur façon de voir ce problème-là dans un livre.
Ah oui?
Ah oui, mais
j'ai raté ça.
C'est l'occasion vraiment d'un échange avec ces gens-là. Alors, pour en revenir au défi de l'athéisme, je crois que pour nous, ça nous amène à revisiter notre image de Dieu et notre façon de voir la foi aussi comme accueil de Dieu, dans le fond, dans nos vies.
Oui, vous iriez jusqu'à dire que si certaines personnes choisissent l'athéisme, c'est par refus de certaines images de Dieu?
C'est exactement ça.
Oui.
Quand vous leur donnez l'occasion de développer leur point de vue, vous vous rendez compte que ce qu'ils élaborent. Hein. Le Dieu dont ils parlent, eh bien, c'est un Dieu avec une caractéristique bien précise. Mm-hmm. Et la plupart du temps, on se rend compte que ce n'est finalement pas le Dieu que nous, nous prions et continuons à célébrer.
Ah, oui.
Oui. Oui. Juste pour vous faire observer quelque chose, dans le livre dont j'ai parlé tout à l'heure, sur les 16 intervenants, il y en a au moins 12, sinon 14. On voit très bien que leur image de Dieu date d'avant Vatican II.
Mm-hmm.
Ah, alors ça, c'est intéressant pour nous, voyez-vous.
Ouais.
Et ça nous éveille au fait qu'il y a encore des relents d'anciennes images de Dieu. On pense qu'on s'est libéré, ouais, mais eux nous remettent constamment cela.
Ouais. Se rappelant que Vatican II, au fond, c'est tout récent si on regarde à l'échelle de l'histoire de l'Église et que certaines images sont lentes.
Ah oui.
Moi, je me souviens d'avoir lu un livre de François Varane que vous connaissez aussi.
Oui.
Ce Dieu absent qui fait problème, son premier chapitre présente certaines images de Dieu comme celle-là. En lisant ce chapitre, moi, je me suis dit, précisément, si c'est comme ça que je voyais Dieu, je me dépêcherais de devenir incroyante.
Voilà, voilà.
Je pourrais pas croire.
Et puis, il y aurait quelque chose de vrai là-dedans. Il y aurait, ouais, quelque chose qui n'est pas fidèle au Dieu de Jésus-Christ.
Oui.
Pensez simplement à l'image du Dieu vengeur, hein, du Dieu un peu... c'est spontanément celui que nous associons aussi avec l'Ancien Testament.
À tort,
en effet.
Je préciserai.
Vous qui êtes une spécialiste là-dedans, je le sais bien. Mais il n'empêche que ça demeure encore une image qui est véhiculée, même parfois par des expressions que nous utilisons, vous savez, sans nous en rendre compte. Mm-hmm. On fait allusion à ce Dieu-là.
Ah oui, qu'est-ce que j'ai bien pu faire au bon Dieu pour que ça m'arrive?
Bon, regardez, exactement. Ouais. Ça, c'est une belle illustration. Oui. Eux, c'est contre un Dieu comme ça qu'ils se battent, voyez-vous. Et ils ont raison.
Oui.
Ou encore un Dieu contrôlant, un Dieu
qui tient compte de nos bonnes et mauvaises actions. Alors, Bruno, on vient de donner une définition, mais extrêmement réduite et bien trop courte de l'athéisme, mais le but est de montrer comment la présence même de l'athéisme nous propose un défi de croissance pour nous qui sommes croyants. Alors, pourriez-vous développer ça?
En effet, nous-mêmes, là, dans notre façon de croire, il y a quelque chose aussi qui nous est présenté comme défi derrière ça. Ce que les athées aussi refusent, c'est une façon de voir notre rapport à Dieu en termes, disons, de soumission passive, hein, pure et simple, devant des vérités qui nous arrivent de l'extérieur, devant des propositions que l'Église nous fait encore aujourd'hui.
Okay. Une sorte d'obéissance aveugle, pourrait-on dire.
Obéissance aveugle, oui. Obéissance conçue comme étant une soumission, où, dans le fond, hein, l'important, ce n'est pas de comprendre. On a encore ça aujourd'hui. Hein. Quand on ne comprend pas, c'est à ce moment-là qu'on devrait croire. Or, c'est de séparer complètement, oui, l'intelligence et l'acquiescement de la volonté, disons, dans la foi.
D'accord. Et donc, ça devient une sorte d'aliénation de la liberté et de l'intelligence humaine.
Exactement. Les premiers grands athées, c'était justement ça, hein, qu'ils ont mis de l'avant, c'est que Dieu était quelqu'un d'aliénant pour la personne
bien
humaine.
Sûr.
Et qui nous empêchait d'être autonomes et de croître, qui empêchait dans le fond la réalisation des idéaux de la modernité. Et puis,
OK. Alors, est-ce que vous êtes en train de nous dire, Bruno Demers, que la foi n'est pas une question d'obéissance?
Ah, alors là, il faut apporter une précision. Parce que quand on se réfère à nos écritures fondatrices, à Paul en particulier, Paul revient constamment avec l'expression « obéissance de la foi ».
Ah oui.
Alors maintenant, il faut découvrir qu'est-ce qu'il voulait dire quand
en
il
effet,
parlait dans ces termes-là.
Surtout qu'il ne me paraît pas être une personnalité très soumise, naturellement, Paul.
Justement.
Alors, allons-y.
Quand on fouille un petit peu les endroits où Paul parle ainsi dans ses lettres, on se rend compte que l'obéissance à laquelle il fait allusion, ce n'est pas l'obéissance que nous concevons, nous, en termes de soumission, mais l'obéissance qui est plus dans la ligne d'une écoute de la parole de Dieu. D'ailleurs, on a gardé un petit peu de cette proximité-là dans la langue française. Pensez simplement à la parenthèse qu'il y a entre obéir et ouïr.
Ah oui.
Bon, oui ou louis. Bon, louis, ça nous dit quelque chose, mais un verbe qui correspond à ça aussi. Ouïr. Voyez-vous, entendre, voilà, entendre, écouter. Alors, c'est quelque chose déjà là de beaucoup plus libérant.
Mm-hmm. Donc, la première obéissance, ce que vous nous dites, c'est la capacité d'écoute.
La foi, c'est l'écoute de la parole de Dieu.
Okay.
Tout simplement. Nous croyons que Dieu se révèle en nous par sa parole. Et c'est une parole que nous sommes invités à entendre et à écouter. à comprendre, d'où l'importance aussi de l'intelligence dans la foi. Quand vous lisez certains passages de l'Évangile, parfois il y a des choses qui vous semblent complètement farfelues, d'où la nécessité de se référer aux études qui sont faites là-dessus, qui nous aident à comprendre qu'est-ce que vraiment ça voulait dire à ce moment-là. Et une fois que vous vous mettez donc à écouter la parole de Dieu, à essayer de la comprendre, à la ruminer, hein, à vous laisser imprégner par elle, alors là, vous vous rendez compte que la conversion, appelé par la foi, eh bien, c'est un espèce de mouvement naturel à l'intérieur de nous qui est dans la continuité de l'écoute de la parole de Dieu.
OK. Il y a d'abord un accueil, une écoute, si je vous comprends bien, un consentement à autre chose qu'à soi-même. C'est ça, pour vous, la première obéissance, et non pas une soumission, mais une ouverture.
L'accueil de la parole.
OK. Et dans cette attitude-là d'écoute et d'accueil, il y a aussi l'intelligence dont les efforts sont sollicités.
En plein ça. Justement, l'intelligence, ce n'est pas quelque chose qui est contraire à la foi ou contraire même à la religion. L'intelligence, c'est cette faculté que Dieu nous a donnée pour justement comprendre sa parole. L'intelligence, mais aussi l'imagination.
Ah
ça,
oui.
Mais l'imagination au sens où, en effet, hein, des fois, vous êtes devant certaines paroles qui sont tout à fait déconnectées de notre réalité, où on ne voit pas quel est le rapport. Bon, quand on essaie de comprendre de quoi il s'agit là, puis à un moment donné, vous savez comme moi, pour bien comprendre les choses, il faut à un moment donné mettre à contribution l'imagination. Qu'est-ce que ça vient évoquer
et notre
dans notre
sensibilité, esprit? Peut-être, pourrait-on dire, notre capacité à rêver. Un être humain meilleur, par exemple.
Et en plein ça, hein, c'est la différence que je fais toujours aussi entre imagination et imaginaire.
Ah oui.
L'imagination, c'est cette faculté qui nous permet justement de transcender un petit peu notre réalité. Alors que l'imaginaire, bon, c'est une œuvre de l'imagination, mais là où vraiment...
On peut aller...
Dans toutes les directions.
Dans toutes les directions.
Et puis là, on perd le contact avec la réalité.
Voilà. Et dans l'ordre du religieux, on peut tomber dans l'illusoire aussi à ce moment-là.
Oui. Autant de choses justement que l'athéisme rejette. Nous aide à identifier. Hein. Alors, ils sont vraiment des pédagogues pour nous.
D'une certaine manière,
bien
sûr.
Ils sont attentifs à tout ça. Ces risques-là, à tous ces dangers que nous avons de dévier, dans le fond, de ce que la foi peut vraiment nous apporter.
Ça stimule à une sorte d'épuration du croire, pourrait-on dire. La présence de l'athéisme invite à développer un croire plus adulte, plus conscient de lui-même, qui s'efforce aussi de rendre compte de façon intelligente de ce qu'il comprend.
Plus authentique, plus réel.
Oui.
Justement, c'est pour nous éviter des dérives dans l'imaginaire ou dans toutes sortes d'exagérations. Ça nous ramène à ce qui est vraiment important dans les décisions que nous prenons ensemble pour l'avenir de notre société. Ça nous ramène au tragique de la vie.
Et donc, il y a aussi une décision. La décision de croire qui reste une option personnelle.
L'acquiescement de notre volonté à quelque chose de plus grand que nous.
Est beau, l'acquiescement.
Oui. Et puis, qui n'est pas aliénant pour nous.
Non.
Là aussi, c'est ça que nous reprochent les athées, de leur point de vue à eux. Ils considèrent que le fait de se rapporter à un Dieu est finalement aliénant pour la personne humaine. Or, nous ne croyons pas ça.
Non,
effectivement, Dieu nous transcende. Dieu est plus grand que nous. Mais quand on se met à l'écoute de sa parole, on n'est pas aliéné de notre propre liberté, mais dans la compréhension que j'ai esquissée devant vous. Au contraire, ça vient réveiller en nous notre liberté. Ça vient vraiment nous appeler à une humanité encore plus intéressante.
Vous disiez, Bruno, à l'écoute, l'accueil, vous avez toujours dit en fonction de la parole de Dieu qui renvoie à la Bible. Je ne sais pas si ça nous entraînerait trop loin, mais j'aimerais poser une question. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un accueil ou une écoute ou une disponibilité à, comment dirais-je, une présence possible de Dieu dans les événements de notre vie ou à l'intérieur de nous-mêmes lorsque nous vivons certaines choses? Ou...
Exactement. Quand on regarde un petit peu la façon dont, dans la Bible, on comprend « parole de Dieu », il y a un terme hébreu, évidemment, pour ça, dont je vous fais grâce. Je laisse ça à des professeurs comme vous, Francine. Mais leur façon de voir la parole, eux, ce n'est pas uniquement des mots. Parole, c'est aussi une force qui vient
une présence dans...
Pensez simplement à la création dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse. Vous vous rappelez que la création se fait en 6 ou 7 jours, 6 jours, et puis après cela...
Et le congé que Dieu a aussi créé à ce moment-là.
Bonne idée, bonne idée. Mais rappelez-vous comment est-ce qu'il crée, hein? Dieu dit et la lumière fut.
Oui, bien
Dieu
sûr.
Dit et l'eau et se sépara de la
c'est
terre.
C'est une parole événement, comme vous dites.
Une parole qui agit.
C'est intéressant. J'avais pas du tout pensé à faire ce lien là que vous venez de faire, vous.
Oui.
Et donc, ça veut dire qu'il peut y avoir une sorte d'accueil ou d'attention à une présence de Dieu dans notre vie ou dans notre intériorité, je dirais,
oui.
Qu'on peut aussi ouïr pour revenir...
C'est les deux aspects de parole. Oui. Parole, c'est non pas uniquement des mots, mais c'est aussi des événements. Nous croyons, nous, que Dieu est présent dans notre histoire et habite notre histoire aussi.
Oui.
Alors, nous sommes donc invités à être à l'écoute, dans le fond, de ce qui se passe autour de nous, comme faisaient les prophètes, comme faisaient, dans le fond, tous les gens là, dont il est question dans
Bien
la Bible,
sûr.
Essayaient d'interpréter et de comprendre qu'est-ce qui se passait.
Bien, même si on n'a pas fait le tour de la question, Bruno, on pourrait clore ici sur, non pas sur l'athéisme, mais sur la sorte de défi que présente l'athéisme.
L'athéisme, en effet, est l'occasion pour nous de purifier notre image de Dieu et l'occasion de purifier notre rapport à Dieu aussi, qui vient solliciter, dans le fond, notre intelligence, notre volonté et aussi notre conversion.
Bien sûr.
Je t'ai montré, mon fils, ce que j'ai fait de mieux. Un soleil plein les nues. Des aurores boréales, des cascades d'étoiles tombant dans le néant, sur les branches du vent. Je t'ai prêté, mon fils, 60 ans d'une vie. 5 fois celle du cheval, 2 fois celle de Jésus. T'en as passé 40 à te ronger d'angoisse, à boucher l'horizon, n'y laissant que des fentes. Ne t'ai-je pas donné talent, santé, salaire, enfant, saison, maison, et femmes à aimer? T'as préféré les routes, nu comme un épervier, manteau de la déroute. Sur blessure cachée, orgueilleux, tas de glaise, tu me mets mal à l'aise. Quand ils ont vu la mer, tes yeux, quand ta langue a goûté le vin, tu m'as souri, je crois. Une des rares fois. Il est temps que tu rentres. Fini les migrations, les transits et les voyages. Il est l'heure, couche-toi et viens dans mon royaume. Tu ne partiras plus, viens pour te reposer, viens savoir si j'existe.
Alors, Bruno Demers, Une deuxième réalité qui est peut-être encore plus présente dans notre paysage religieux au Québec, l'indifférence religieuse. Et vous me disiez hors micro que c'est très clairement différent pour vous, l'indifférence religieuse, de l'athéisme.
En effet, il est important de bien voir en quoi ça se distingue de l'autre pour nous aider justement à préciser le défi qu'il y a aussi derrière l'indifférence religieuse. Et à vrai dire, moi, c'est le défi qui m'angoisse le plus, pour vous le dire honnêtement. À la rigueur, regardez, l'athée, c'est quelqu'un qui accorde de l'importance à la question de Dieu, puisqu'il y voit l'intérêt de développer une position par rapport à ça, d'écrire même un chapitre de livre qui a été publié l'année passée.
C'est vrai.
Alors, il y a déjà quelque chose là, même s'ils ne sont pas d'accord, voyez-vous. Donc, il y a moyen au moins de discuter, il y a un échange de points de vue là-dessus. Mais dans le cas de l'indifférence religieuse, on n'a pas de prise. L'indifférence religieuse, c'est le degré zéro de la croyance.
Ah,
il y a toutes sortes de façons de voir la croyance. Bon, on a l'athéisme, on a aussi l'agnosticisme.
Oui.
Bon, quand quelqu'un dit qu'il ne peut pas croire parce qu'il n'y a aucune connaissance de ça, bon, c'est une position. Il y a les libres penseurs, il y a toutes sortes d'autres catégories aussi. Mais la catégorie qui est la plus redoutable pour nous, c'est bien celle de l'indifférence religieuse. Parce que dans ce cas-là, la personne ne voit pas l'utilité, ne voit pas le rapport de Dieu par rapport à notre vie. Si vous avez des adolescents chez vous, ils vous ont probablement déjà dit « ça n'a pas rap ».
Oui, en effet.
Alors vraiment, c'est ça.
Oui.
Je vois pas quel est le rapport avec ma vie de tous les jours, pas uniquement dans la question de Dieu, mais dans la question de la religion.
Oui.
Aujourd'hui, il n'est pas rare de rencontrer des gens qui n'ont aucun intérêt. C'est un manque d'intérêt pour la religion et pour la question de Dieu.
Je comprends, oui. Il y a même des gens pour qui l'intérêt qu'on peut montrer pour la religion est une aberration. Au fond, qui trouvent que la religion elle-même n'a aucun intérêt et est sans intérêt en général.
Voilà.
Et pas seulement pour eux-mêmes, mais en général.
C'est ça. Oui, exactement. Alors là, le défi est redoutable. On se dit, comment est-ce qu'on va faire pour réussir à avoir un dialogue avec ces gens-là ou quoi? Ça invite de notre part beaucoup d'imagination, ça invite à vraiment se laisser déstabiliser. Mais je crois que là aussi, il y a quelque chose qui se dit à travers cette expérience-là.
Et qui pourrait être un défi pour notre foi?
Exactement.
Alors?
Qui nous donne l'occasion, dans le fond, de mieux situer notre rapport à Dieu. Écoutons ce qui se dit derrière les indifférents religieuses. Ils ne le disent pas parce que, dans le fond, ils ne voient même pas l'intérêt. Mais ce que ça veut dire, c'est que Dieu, ça n'a pas d'utilité. Dieu, c'est pas nécessaire pour vivre.
Oui, c'est vrai, au fond.
Mais l'affaire, c'est ça.
Dieu n'est pas utile, c'est ça.
C'est vrai.
Okay.
Regardez bien, vous avez autour de vous des gens qui sont indifférents. Bon, est-ce qu'ils le sont vraiment à 100%? Ça, c'est une autre question, je ne rentre pas là-dedans. Mais globalement, en effet, ils voient que ça n'a pas trop, ça n'a pas d'utilité dans leur vie de tous les jours et qu'ils peuvent très bien être des bons travailleurs, des bons pères ou mères de famille, des gens qui peuvent très bien fonctionner, des êtres moraux.
Des grands humanistes.
Des grands humanistes, des gens sensibles, tout ça, ça va.
Et donc, mais c'est vrai, Bruno, je veux pas faire l'avocat du diable, mais c'est vrai que l'utilité immédiate de Dieu, c'est pas évident.
Voilà, c'est exactement ce que ça
vient
nous dire.
Enfin, si on n'est plus à l'âge où on espère que Dieu va m'aider à réussir mes examens de fin d'année ou ce genre de choses.
Voilà. C'est parce qu'il touche à quelque chose de vrai aussi.
Oui.
Mais quand on y pense comme il faut, le Dieu qui se révèle en Jésus-Christ, et puis ces expériences de Dieu dont nous vivons, qu'on évoquait de temps en temps, eh bien, on voit bien que ce n'est pas sur le registre de l'utilité que là, on voit vraiment notre rapport à Dieu.
Pouvez-vous développer un peu?
C'est ce que nous appelons aujourd'hui, et que même plusieurs penseurs sont en train d'élaborer, le registre de la gratuité dans notre existence.
Ah oui.
Notre monde, notre société, est très marqué par l'utilité. Vous savez, comme moi, le citoyen est vu comme étant un consommateur, est vu comme étant un rouage de production dans tout le système social.
Tout à fait.
Et que, bon, à partir du moment où vous ne pouvez plus travailler ou que vous êtes malade, on voit encore là, un événement qui vient de se produire il n'y a pas très longtemps, où là, on pensait à renvoyer des gens en France parce que Leurs enfants, ils ont une fille. Hein,
ouais.
Les gens qui ont prononcé ça estiment que ça va être un fardeau pour la société.
C'est ça. Mais non là, productif. Citoyen non productif.
Non productif.
Moi, j'ai entendu l'expression à la radio ce matin.
Bon, alors ça illustre bien une vue là, dans notre société aujourd'hui a des répercussions à toutes sortes de niveaux, vous
savez. Ce sur quoi vous mettez le doigt, c'est une sorte d'ambiance générale. Ça ne veut pas dire que chaque individu pour qui, c'est clair, la religion n'a pas d'intérêt, pense comme ça, mais c'est comme s'il voguait sur cette ambiance générale qui n'est peut-être pas sa propre opinion
voilà.
À lui.
Mais ça, c'est l'indifférence religieuse. Hein? C'est quelque chose d'insaisissable.
Okay.
Alors que l'athéisme,
c'est dans l'air.
C'est plus précis.
Oui.
C'est dans l'air. C'est une espèce de rapport à ces questions-là où finalement, il n'y en a pas de rapport.
D'accord. C'est pas une position claire nécessairement des gens.
Voilà.
Mais au fond, la religion trouve pas sa case dans le coffret à outils dont j'ai besoin pour vivre. Il y a pas de petit casier prévu pour
Exactement.
Ça, alors ça reste
Parce
sur
que
la
dans
tablette.
L'ère du temps, tout ce qui ne relève pas de la production de l'utilité sociale est considéré comme n'ayant pas de valeur. Mais quand on y pense comme il faut, ce qui occupe vraiment nos journées, ce qui occupe vraiment notre esprit. Bon, notre travail, oui, en bonne partie, hein, puis ceux qui travaillent beaucoup, on le sait qu'est-ce que ça veut dire. Mais c'est pas là qu'on trouve les véritables satisfactions dans notre existence.
Mm-hmm.
Là, vraiment, les choses qui nous font vivre ne relèvent pas de ce registre-là, mais relèvent plutôt des relations interpersonnelles. Que ce soit la relation que vous avez avec votre conjoint, conjointe, avec vos amis, avec vos enfants, avec beaucoup de gens.
Mm-hmm.
Et c'est ça qui vous fait vivre. Mais ça, ces choses-là, on n'est plus dans l'ordre de la production, dans l'ordre du comptabilisable. On est dans l'ordre de la gratuité.
Ouais.
Regardez bien, avec votre conjoint, vous avez une relation d'utilité, si vous voyez l'autre uniquement en fonction de vos besoins, de ce qu'il peut vous apporter, vous savez comme moi, ça ne pourra pas durer très longtemps, votre relation.
Effectivement, il y a de plus en plus d'hommes qui n'aiment pas être perçus comme le pourvoyeur, justement.
Ah, aussi.
Vous voyez, c'est vrai.
Alors que justement, on voit bien que si on veut établir des relations signifiantes avec les gens d'aujourd'hui, avec notre monde, il faut dépasser ce niveau-là pour être capable d'accueillir l'autre tel qu'il est. Et l'autre, indépendamment, donc, des besoins, de l'utilité qu'il peut avoir avec moi.
Donc, on est dans le circuit de l'échange, du don, de la gratuité.
Exactement,
et
c'est tout à fait.
Et presque de l'inutile, mais cette fois-ci avec un sens un peu plus noble, je dirais, du mot inutile.
Ou encore, c'est...
Gratuité serait préférable comme mot. Hein?
Parce que c'est positif. Alors
Absolument.
Que inutile, voyez-vous, c'est encore... Puis, on est trop dépendant du concept d'utilité derrière ça. La gratuité, c'est vraiment quelque chose qui nous advient... en surplus, mais pas un surplus arbitraire ou luxueux, mais un surplus qui vient relancer notre vie, notre quotidien de tous les jours. Les rapports que vous avez avec les personnes autour de vous, c'est
sûr.
Pas en termes d'utilité, c'est parce qu'ils viennent donner une belle coloration dans votre vie.
Et même nos rapports à nous-mêmes devraient être perçus effectivement, non pas sous le mode de « est-ce que je sers à quelque chose ?» Bon, je pense à des gens âgés qui dépriment parce qu'ils se disent « moi, je ne sers plus à rien ». Et c'est faux. C'est
faux. Tout à fait, c'est ça.
Mais ils ne servent à rien, selon en tout cas l'échelle de la production.
C'est
faux.
C'est faux, parce qu'en effet, ils ont un très grand apport.
Une présence enrichissante.
Enrichissante pour le caractère humain de notre société.
Exactement.
Et puis, c'est à ce niveau-là, vraiment, que eux, les personnes handicapées, toutes sortes d'autres gens, ont vraiment une place là-dedans et viennent nous humaniser profondément.
Oui, oui. Et alors, Dieu...
Dieu, eh bien, justement, quand on le situe sur le registre de la gratuité, c'est à ce moment-là qu'on trouve toute sa valeur, toute son utilité pour reprendre cette catégorie-là, mais converti.
Un Dieu
qui a un rapport à notre vie.
De grâce, diriez-vous, parce que le vocabulaire de la grâce est proche du vocabulaire de la gratuité.
Et en plein ça. Ce que j'aime bien évoquer comme expérience pour nous aider à comprendre ça, c'est les spectacles que nous pouvons voir de temps en temps de patinage artistique.
Oui.
On a eu, il me semble, des Olympiques d'hiver il n'y a pas très longtemps, où là, on pouvait voir vous savez comment, des belles prestations, c'est incroyable.
C'est magnifique.
Hein? Des jeunes hommes, des jeunes femmes qui donnaient l'impression de voler littéralement sur la glace.
Ouais.
Des spectacles comme ça, vous savez, ça vous fait oublier votre quotidien complètement. Et là, ça vient comme vous élever de l'intérieur.
Oui.
Et puis, c'est pas utile comme tel dans notre vie.
Mais on dit comme c'est gracieux.
Comme c'est gracieux. Voilà.
Ouais.
Ça vient nous humaniser, voyez-vous.
C'est plus que le gracieux du joli mouvement. Il y a quelque chose de l'ordre de la grâce. Il y a de là un surplus d'humanité,
voilà.
Pourrait-on dire.
Exactement. Et un surcroît d'humanité.
Un surcroît, oui.
C'est justement humanité. Qui vient donc nous élever.
Et donc, on peut percevoir Dieu dans ce registre-là de réalité.
Exactement.
Comme nous apportant un surcroît d'humanité qui finalement allège l'image du patin artistique, j'aime bien, parce qu'il y a une image de légèreté là. Alors que quand on parle d'un surplus, je voyais un poids de plus ajouté sur le sac à dos. Hein? Non, mais après tout, on choisit pas toujours les images qui nous viennent à l'esprit.
Vous avez raison.
Et puis tout à coup, c'est un surplus qui allège le sac à dos, finalement.
Exactement.
Et mais qui nous permet qui rend de marcher la vie légère.
Légère, voilà, puis de marcher avec plus de gaieté. Hein? C'est très proche de la joie, tout ça. Et bon, c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais il y a moyen de toujours passer à travers ces épreuves-là d'une façon proche de la grâce.
Oui.
Bon, la grâce, c'est un concept très difficile à comprendre, mais ça évoque ce genre d'expérience-là. On voit donc la pertinence de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu pour essayer de vivre le plus possible selon ce style de vie-là.
Et pour comme agrandir l'intériorité, je dirais, vers la gratuité en nous aussi et avoir soi-même un peu plus de gratuité.
En plein
Un regard, je dirais, sur nous-mêmes aussi.
Sur nous-mêmes. Et vous savez, ça vient nous sensibiliser à un tout autre type de logique aussi dans nos rapports interpersonnels.
Oui.
Au lieu que ce soit une logique là, du donnant-donnant et qui calcule tout, c'est la logique de l'amour qui est la logique de la surabondance.
Oui.
Les parents à l'égard de leurs enfants ne calculent pas. Tout le temps qui passe, l'argent évidemment, vous savez comme moi tout ce que ça passe. Et puis on calcule pas ça, c'est pas ça qui est important. On s'investit complètement dans cette tâche-là pour aider les enfants à les éveiller au bonheur, pour faire en sorte qu'eux aussi puissent continuer à vivre heureux comme nous le faisons. Et c'est là qu'on trouve notre propre satisfaction.
Ouais, donc Dieu se réalise en nous donnant. Est-ce que vous Je fais un peu de j'avance sur l'image que vous venez d'utiliser.
Et on pourrait dire que nous croyons.
Dieu s'accomplit lui-même en étant don gratuit pour nous.
Exactement. C'est comme ça qu'il se manifeste, c'est comme ça qu'il se donne à nous. À toutes les fois où il se révèle à nous, il se donne en même temps. C'est notre façon de comprendre la révélation dans la perspective chrétienne. Et ça, alors vous imaginez, quand on est capable de l'accueillir sur ce registre-là, et donc de venir voir à quel point il vient relancer constamment notre capacité d'aimer, notre capacité de donner.
Et de recevoir, puisqu'on est dans la gratuité, donc on peut aussi.
Exactement.
C'est un circuit, au fond, donner et recevoir.
C'est ça.
Qu'on pourrait dire, qui peut être vécu par tous, dans la mesure d'ailleurs où on croit, nous, que chaque être humain est fait à l'image de Dieu, mais qui est vécu avec plus de confiance intérieure si est en relation avec Dieu, qui alors, nourrit en nous ce...
Cela, alors on voit cela. Bien, hein, pour faire le lien avec ce dont on parlait tout à l'heure, c'est loin d'être aliénant pour nous. Voilà, ça c'est à la source d'un surcroît d'humanité. Nous croyons, nous, que Dieu vraiment nous aide à grandir dans l'humanité. Nous ne savons que plus ou moins qu'est-ce que c'est qu'est véritablement l'humanité.
Mm-hmm.
Nous savons qu'en suivant ce qui nous est proposé dans l'accueil donc du surcroît de Dieu, eh bien que nous pouvons grandir en humanité de ce point de vue-là.
Thank you.
Bruno Demers, vous disiez en début d'émission, donc une troisième réalité qui présente un défi considérable, c'est le contact, la rencontre avec d'autres traditions religieuses. On sait depuis toujours qu'elles existent, mais voici qu'elles existent à Montréal, dans les rues et dans les restos. Et je connais des gens qui sont ouverts, tolérants, tout ça, mais qui se sentent insécurisés dans le contact avec d'autres grandes religions, au point parfois de se demander est-ce que je devrais mettre mes propres options en veilleuse, le temps d'en essayer une autre.
C'est encore un autre défi qui est en effet très troublant. Et c'est probablement le défi encore le plus important de ceux que nous avons abordé jusqu'à maintenant. Vous seriez porté à me dire que dans le fond, l'indifférence religieuse, il me semble que c'est encore plus radical comme défi. Mais à l'échelle de la planète, il est bon de se rappeler que ce qui relève de l'indifférence religieuse par rapport à l'ensemble de tous les, quoi, on est au plus de 6 milliards d'êtres humains, eh bien, c'est une petite partie de l'humanité. Même chose pour l'athéisme, c'est pas très répandu. Alors que finalement, ce qu'il y a de plus dans le monde, c'est des croyants. Et c'est des croyants qui vivent leur croyance d'une autre façon que nous, en d'autres traditions religieuses.
Donc, vous incluez le bouddhisme, l'hindouisme, toutes ces grandes traditions spirituelles.
C'est ça, en plus évidemment de l'islam et du judaïsme qui nous sont peut-être plus familiers. Ce défi-là est plus radical et est redoutable parce que ça vient modifier complètement nos façons de voir même notre rapport à Jésus-Christ et notre façon de voir le christianisme, vous savez. Parce que tout était vraiment fermé sur nous. Hein. Alors que là, vraiment, comme vous le disiez, bon, comme chrétien, quand on rencontre des gens de d'autres traditions, on est porté à être accueillant et puis on est porté à être spontanément ouvert à l'égard de ces gens-là. Puis c'est une attitude très saine.
Bien sûr.
Mais là, à un moment donné, on se met tout à coup à se dire, ben, hey, c'est bien beau, mais jusqu'où je peux aller vraiment dans les rapports que j'ai avec ces gens-là? Hein, c'est souvent ça. Est-ce que je risque pas moi-même, donc, de perdre mon identité?
Alors, vous pourriez peut-être répondre à votre propre question. Jusqu'où je peux aller
dans ce dialogue
et dans cet accueil et cette altérité?
C'est le grand défi. Hein? Il faut tout d'abord bien réaliser que le défi de la rencontre des autres traditions religieuses, c'est très large. Le dialogue interreligieux se vit au quotidien, au jour le jour, quand vous avez dans votre immeuble des gens qui sont de d'autres appartenances religieuses. Alors, vous les croisez dans l'escalier, vous les croisez à l'entrée de l'immeuble, puis on s'intéresse à eux, je veux dire, on essaie d'élaborer des bons rapports, le dialogue de la vie. Vous avez après ça, quand il faut, à un moment donné, prendre des décisions, se mettre ensemble et puis revendiquer quelque chose ou faire quelque chose en commun, en vue de la promotion, disons, d'une meilleure qualité de vie, c'est un autre type.
En effet, et ça se passe aussi au travail pour beaucoup de gens, ce genre de situation-là.
Exactement, c'est ça. Et puis eux, on voit bien qu'ils interviennent à partir de d'autres valeurs, puis vous le faites au nom de d'autres valeurs. C'est toujours intéressant de pouvoir dialoguer là-dessus. Et quand vous les connaissez davantage, eh bien là, vous avez parfois l'occasion vraiment d'aborder des sujets religieux avec eux. Quand vous avez des Juifs dans votre environnement et puis qu'ils bâtissent une espèce de cabane sur leur
balcon,
c'est intéressant de connaître pourquoi. Donc, c'est le dialogue des expériences spirituelles. Et pour le dialogue qui est peut-être plus entre spécialistes, qui est celui du dialogue interreligieux, vraiment, où là, on essaie d'approfondir, ou, comment je dirais, dans le fond, dans le dialogue interreligieux, si on veut, ou comme dans la rencontre des autres traditions religieuses, si on veut bien la faire, on ne peut pas mettre entre parenthèses sa propre identité. Parce qu'à ce moment-là, vous ne faites plus de dialogue interreligieux.
Effectivement. Accueillir l'autre, il faut être là pour accueillir l'autre.
Exactement.
Si je m'absente de moi-même,
tout à fait.
Il n'y a plus de relation.
Alors, le véritable enjeu dans la rencontre des autres ou dans le dialogue interreligieux, c'est de créer cet espace de dialogue entre vous, où l'autre va être capable de répondre à vos questions, d'expliquer comme il faut ces choses, et où vous, en réponse à ça, vous serez aussi en mesure, donc, d'expliquer vous-même comment est-ce qu'on vit, nous, tel rite en christianisme. De faire en sorte que chacun peut s'exprimer librement, donc connaître l'autre et en même temps exprimer qu'est-ce qu'il est, et le faire dans un climat même qui est de plus de tolérance, qui est de l'ordre de connaissances mutuelles, d'intérêts mutuels.
Bien sûr, mais alors ça veut dire que je dois pouvoir rendre compte de ma propre foi. Il est peut-être là, le défi.
Eh bien, voilà, c'est justement ce dont on se rend compte, Francine, quand on s'engage dans un processus comme ça. Là, on se rend compte que, oups, je la connais peut-être moins bien que je pensais, ma foi. Alors, paradoxalement, le dialogue interreligieux pour nous est une occasion d'approfondir notre identité. Alors ça, ça peut nous aider aussi peut-être pour établir notre projet de convivialité sociale dans lequel on est impliqué. Mais restons-en uniquement au plan religieux. Mm-hmm. Alors moi, j'ai eu la chance de dialoguer avec des gens de d'autres traditions. Entre autres, à un moment donné, j'étais allé dans un temple bouddhiste. J'avais amené mes étudiants là aussi et on avait eu l'occasion d'entendre parler de compassion de la part de ce moine bouddhiste-là.
C'est très important, la compassion.
Vous devinez en effet à quel point on était bouche bée devant ce qu'il nous disait. Ceux qui ont eu l'occasion d'entendre le Dalai Lama sur ces questions-là, c'est la même chose également. Regardez, on entend parler de compassion, mais d'une façon tellement différente que celle à laquelle on est habitué, qu'après ça, ben là, vous revenez chez vous, puis « Ah, tu sais, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est beau! » Alors là, vous êtes obligé de revenir à Jésus-Christ. « Ah, comment Jésus parle de compassion? Comment est-ce que ça s'articule dans l'Évangile, tout ça? » Ah, quelle belle occasion pour nous d'approfondir notre religion et de mettre, comment je dirais, de développer, dans le fond, des virtualités qui étaient déjà là.
Déjà dans là dans notre propre religion.
En effet.
Donc, des virtualités, des choses ou des dimensions qu'on ne percevait pas clairement, c'est ce que vous voulez dire?
En plein ça, vous savez. C'est plein de choses comme
et
ça.
Et on les voit parce qu'on les voit à l'œuvre dans l'autre tradition.
Ou encore, quand on se laisse interpeller aussi par l'autre. Quand il nous présente des façons nouvelles de voir la compassion, puis on se dit, ah, c'est vrai, alors nous, qu'est-ce que ça pourrait venir éveiller chez nous?
OK, et donc ça veut dire que l'identité, l'espèce de, comment dire, de travail, de définition de l'identité, qui est le défi auquel me convie, si je vous comprends bien, la rencontre d'autres religions, ce défi, il se développe non seulement parce que je dois percevoir qu'est-ce qui m'est spécifique par rapport à l'autre, ce qui me différencie, mais là, si je vous entends bien, l'identité, elle se fait aussi ce que j'ai en commun, peut-être, avec...
Ah oui, exactement.
En fait, c'est ce que me dit votre exemple de la compassion, n'ai pas bien compris.
Non. Et plus que ça, ça me donne l'occasion aussi, moi-même, de réaliser que, finalement, je la vis peut-être pas si bien que ça, la compassion.
Oui.
Ce qui est étrange aussi dans le dialogue interreligieux, on voit bien que, alors que spontanément, on pouvait peut-être avoir quelques velléités de convertir l'autre, eh bien, on se rend compte que finalement, c'est nous qui sommes convertis par justement ce que l'autre dit. C'est une conversion mutuelle. Alors, autant cela est salutaire pour moi, autant ça l'est aussi pour l'autre, qui, après avoir exprimé ce qu'il dit, eh bien, je vois bien que, puis quand moi, je suis capable de parler d'une autre valeur chrétienne, eh bien, à ce moment-là, lui-même est amené à faire le même rapport.
Je trouve ça bien intéressant, cet aspect, donc, de construire sa propre identité croyante, à la fois par la différence, ce qui me distingue, et par la connivence, ce qui me ressemble chez l'autre, et comment ce qui me ressemble s'ajoute. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que, puisque les croyants de diverses religions ont en commun de croire en Dieu. En tout cas, disons, les trois grandes religions monothéistes, c'est plus clair pour moi, ça.
Oui.
Est-ce que vous diriez à ce moment-là que je suis invité à ne pas considérer que Dieu se limite au christianisme? C'est évident, ça. Je pense que la question se pose même pas.
Voilà.
Mais que Dieu est aussi bien présent et...
Exact. Regardez, je reviens avec l'idée de la compassion bouddhiste. Là.
Oui.
Vous voyez bien là qu'il y a quelque chose là de vraiment humain, puis quelque chose qui est un beau projet là pour nous faire grandir. Alors, on peut pas faire autrement que de deviner qu'il pourrait y avoir là quelque chose que Dieu à travers tout ça.
Oui.
Les premiers théologiens en christianisme, les pères de l'Église, avaient rencontré un petit peu la même expérience que nous. Eux, pour la plupart, avaient été éduqués dans la philosophie grecque.
Mm-hmm.
Et dans la philosophie grecque, vous avez un penseur là qui avait beaucoup contribué à élaborer une sagesse et travaillé aussi au développement de la démocratie. Je pense à Socrate, vous dit quelque chose.
Un peu connu,
hein? On se rappelle de ce tableau là où on voit Socrate là assis dans sa chaise avec cette coupe là, s'apprêtant à boire la ciguë.
Oui, qui va le tuer.
Qui va le tuer, oui. C'est comme ça qu'il va mourir. Mais habituellement, ce que les gens savent pas trop, c'est pourquoi est-ce qu'il boit de la ciguë. Hein? Il devait avoir une raison derrière ça.
Mm-hmm.
Or, ce qui est arrivé à Socrate, c'est après avoir élaboré sa philosophie comme ça, c'est parvenu aux oreilles de l'empereur. Et l'empereur, évidemment, entendant parler de démocratie, disons, n'était pas spontanément favorable à l'idée, vous devinez bien.
Mm-hmm.
Alors, il a envoyé un messager à Socrate pour lui dire, « Alors, tu as le choix. » Hein? Soit que tu abandonnes tes idées, tu renies qu'est-ce que tu dis, tu continues à vivre, ou si tu persistes à parler comme tu le fais, eh bien, alors à ce moment-là, tu es condamné à mort, on va te couper la tête.
Okay.
Alors Socrate, devant ça, eh bien, a décidé de ne pas renier qu'est-ce qu'il avait dit, mais au lieu de se faire tuer par un autre, a décidé lui-même de se donner la mort. Est-ce que ça évoquerait pas quelque chose qui nous est plus familier?
Enfin, c'est sûr que oui, parmi les grands personnages qui ont été fidèles à eux-mêmes jusqu'à la mort, il y a certainement Jésus de Nazareth.
Voilà, c'est le problème, je dirais, avec lequel nos...
Les pères de l'Église ont fait ce rapprochement?
Exactement.
Ah, oui.
Alors, ils se sont dit, voyons, il y a quelque chose là qui c'est comme une avant-première, une préfiguration de ce qui va se faire en Jésus-Christ.
Oui, Socrate étant 4 siècles avant Jésus.
Voilà. Et puis, les pères de l'Église, bon, avaient déjà réfléchi sur le rapport entre humanité et divinité de chez Jésus. Donc,
oui,
ils savaient
oui.
bien qu'en tant que verbe de Dieu, il n'était pas limité à l'espace temporel.
De l'homme de Nazareth.
De l'homme
disons.
De Nazareth.
Oui.
Alors, c'est ce qu'on appelait le verbe de Dieu qui est allé au commencement, comme dit d'ailleurs le prologue de Saint Jean. Alors, pour réussir à voir clair dans tout ça, ils ont évoqué l'hypothèse des semences du verbe. Autrement dit, dans cette sagesse
de Socrate,
il y avait là déjà des traces du Verbe de Dieu qui vont donc se manifester, la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ.
Ah oui.
Alors, ce que les théologiens d'aujourd'hui font, ils reprennent cette expression-là des pères de l'Église et au lieu de la limiter seulement qu'à la philosophie grecque, eh bien maintenant, ils l'appliquent aussi aux sagesses et aux doctrines de toutes les grandes traditions religieuses où on perçoit de façon instinctive
oui.
qu'il y a là quelque chose qui va nous grandir dans notre humanité.
D'accord. Donc, qu'il y a là quelque chose qui est en parenté profonde avec la révélation de Dieu telle que nous l'accueillons en Jésus-Christ.
Bon.
Connivence.
Voilà, mais il faut faire attention aussi pour ne pas faire d'eux des chrétiens qui s'ignorent.
Ah non, ça, il n'y a rien de plus insultant,
voilà.
je trouve, pour les gens et méprisant même.
Voilà, mais sachant bien, en effet, que dans le fond, le mystère du Verbe de Dieu dépasse la manifestation historique de Jésus.
De Jésus.
Alors
c'est
là, c'est quelque chose qui devient cohérent avec notre
ouais.
foi, qui fait en sorte donc, que désormais, nous pouvons être authentiquement ouverts aux autres. Nous pouvons nous intéresser même aux semences
oui.
du Verbe qu'il y a là et en même temps garder notre fidélité à
mm-hmm.
Jésus-Christ.
Oui, sachant qu'on ne peut pas rendre compte à nous tout seuls de la totalité des manières d'entrer en relation avec Dieu, finalement.
Voilà, exactement.
Donc,
les christianismes sont toujours dépendants du lieu où ils se développent,
oui.
de l'époque dans laquelle ils se situent aussi.
C'est vrai, et c'est vrai pour les autres religions
exactement.
Aussi. Elles sont marquées par leur culture.
On ne peut pas dire qu'on totalise l'ensemble.
Il n'y a pas de monopole, hein, c'est ça.
Non, il y a des richesses dans les traditions religieuses qu'on ne retrouve pas chez nous et qui sont vraiment de l'ordre de grandes richesses humaines et religieuses.
Oui.
Et maintenant, on peut
tout à fait.
C'est ça, s'ouvrir à elles sans problème parce qu'on a développé un petit peu cette façon de voir les choses où finalement, ce n'était que Jésus-Christ qui était important puis tout le reste était mauvais. Or, maintenant, on dit que Jésus-Christ est toujours important, mais on est capable de le mettre en relation avec ce qu'il y a de bon aussi dans les autres traditions religieuses.
Bruno, enfin, ce qui me vient en mettant ensemble les 3 défis dont vous nous avez parlé, c'est que dans les 3 cas, il y a des constantes, là. Je dirais, il y a un accueil de l'altérité, hein, qui est l'écoute et l'accueil à la possibilité même que Dieu entre en relation avec moi,
ouais.
par rapport à l'athéisme, par exemple. L'accueil de la gratuité, qui est un peu en altérité par rapport aux valeurs les plus courantes de la société actuellement, et l'accueil de la tradition religieuse différente, mais pas seulement ça, l'accueil de ce qu'il y a de Dieu et de croyants comme moi et autrement que moi là-dedans. Il y a une constante dans vos défis de croissance qui me semble tous poser le même problème. Le problème, c'est que ça suppose qu'on soit assez à l'aise dans sa propre foi, qu'elle soit autre chose qu'une foi simplement héritée, mais une sorte de décision rechoisie à un moment donné.
Vraiment
comme
assumée.
Comme adulte, hein? Assumée, oui.
Ah, tout à fait, vraiment. Là,
parce que faut pas être trop insécure là, pour marcher avec ce que...
Tout à fait. Et c'était l'objectif, dans le fond, là, de ces petits entretiens-là. C'est pour nous aider à passer, dans le fond, des obstacles, à voir ces événements-là comme étant des défis plutôt pour nous.
Oui, oui.
Quand nous croyons que Dieu s'est révélé dans l'histoire, comme la tradition judéo-chrétienne le proclame, eh bien, je crois qu'on est invité à voir dans les événements qui nous entourent, essayer de percevoir là qu'est-ce qu'il peut y avoir comme manifestations qui vont nous aider à grandir dans notre foi. Et une fois qu'on a fait ce déplacement-là, une ou deux reprises, on n'est plus rassuré au plan de la foi.
Ouais.
On se sent mieux, on voit bien, on ne sait pas trop où est-ce que ça va nous mener. Ça, je vous le concède. Mais au moins, on est rassuré dans la foi. Et je crois que dans notre époque, c'est probablement ce qui est le plus important à développer. Se rassurer dans la foi et d'être capable de répondre avec intelligence et avec crédibilité.
Oui, et en admettant aussi qu'on n'aura pas jamais toutes les réponses, d'ailleurs, et que personne ne les a. Mais savoir soi-même pourquoi on a les pieds là où on a les pieds et...
Et comme je vous dis, c'est parce que ça nous donne l'occasion vraiment d'aller plus loin dans notre façon de voir les choses. Et c'est vraiment des occasions de grandir. Ce sont des chances inouïes de croître dans la foi. Alors qu'on a l'impression spontanément que la foi, elle est tellement malmenée aujourd'hui, eh bien, soyons capables de voir là des occasions de grandir et d'aller plus loin. On vit, de ce point de vue-là, on vit une période tout à fait... passionnant.
Oui, j'entends ça à votre voix, Bruno Demers. C'est évident que ça vous passionne. Ce qui est évident, c'est à quel point vous nous proposez un regard positif sur des réalités que beaucoup de co-religionnaires catholiques voilà. voient d'une façon négative. Il me semble qu'il y a beaucoup de sérénité aussi dans votre réflexion et dans votre proposition de vision des choses. Ben, je vous remercie, Bruno, d'avoir pris le temps de réfléchir sur ces énormes questions.
Ça m'a fait plaisir.
Et je dirais d'avoir contribué à nous rassurer d'une certaine manière, à savoir que nous sommes ce que nous sommes. Si nous le choisissons, on peut en assumer les conséquences sans avoir l'impression d'être des gens d'une autre planète, mais tout simplement d'être frères en humanité, si je puis dire, avec aussi bien les chercheurs de Dieu ailleurs que les gens qui sont persuadés de l'inexistence de Dieu et souvent avec des raisons qui seraient les miennes aussi, enfin, avec certaines images de Dieu auxquelles moi non plus je pourrais pas croire.
Voilà.
Et donc, il y a une fraternité même là.
Qu'on découvre. Puis on découvre qu'on est capable d'être croyant de façon sensée et intelligente aujourd'hui.
Bruno Demers, un grand merci au nom de tous nos auditeurs pour cette intéressante émission. C'est Francine Robert au microphone en remplacement de Christine Cossette. Je vous rappelle que vous trouverez sur le site Internet de l'Institut de Pastoral des suggestions de lecture en lien avec certaines de nos émissions, dont celle d'aujourd'hui. Je remercie encore une fois Bruno Demers d'avoir participé à cette émission et je vous remercie, chers auditeurs et auditrices, qui écoutez cette série « Croire d'hier à demain » réalisée pour Radio Ville-Marie par l'équipe de l'Institut de pastoral des Dominicains à l'occasion du 50e anniversaire de sa fondation. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne journée sur les ondes de Radio Ville-Marie. À bientôt.